Alain Baraton et sa main verte, le retour. Alain, on parle du noyer ce matin, le noyer noir.
Et oui, oui.
C'est l'un des premiers arbres introduits en Europe.
Oui, le Juglans nigra, c'est son vrai nom, est né dans les régions de l'Est des États-Unis. C'est un arbre majestueux qui atteint à l'âge adulte dans son pays d'origine près de 50 mètres de hauteur. C'est considérable. Alors depuis toujours, 4000 ans au dire des scientifiques, les Indiens le vénèrent pour ses noix qui fournissent une huile de qualité riche en protéines. Précision, la coque de la noix est particulièrement difficile à casser.
Le noyer noir est aussi et surtout apprécié pour son bois.
Un bois d'une qualité si exceptionnelle qu'il a disparu de son milieu naturel, tant il a été exploité par les Européens qui investissent alors le nouveau continent. Les Indiens, eux, respectaient tous les arbres et quand ils devaient en sacrifier un pour des raisons sérieuses, ils demandaient pardon avant de le couper.
Alors, ce noyer noir, à quoi ressemble son bois et d'ailleurs, quelle est son utilisation?
Alors, c'est le bois, il est généralement brun foncé et magnifiquement veiné, on dirait presque du marbre. Il est donc, vous vous en doutez, très apprécié des ébénistes. Le noyer noir offre aussi l'avantage de se façonner aisément et d'être d'une grande dureté. Il servait autrefois à fabriquer les hélices des premiers avions de chasse et aujourd'hui encore, il est le bois le plus employé pour les crosses de fusils.
On peut dire que c'est un bel arbre?
Ah oui, sans aucun doute, et c'est d'ailleurs pour cela, vous l'avez dit en ouverture, qu'il est introduit très tôt en Europe. Si la date de sa découverte, 1629, peut éventuellement être sujet à questionnement, il est certain que John Tracedan, c'est un éminent botaniste anglais et un collectionneur de plantes, eh bien on sait qu'il en ramenait un exemplaire de Virginie dans son jardin de Chelsea. En 1636, la date est précise, il était possible de voir un noyer noir poussé en plein cœur de Londres.
Est-ce que c'est vrai que le noyer noir n'aime pas trop la présence de plantes sous sa ramure?
Comme tous les noyers, il sécrète par les feuilles une substance appelée juglon. Sur le sol, cette substance bloque la germination des herbes et stoppe la croissance des plantes adultes, une manière de tenir à distance tous ceux qui seraient tentés de lui faire de l'ombre. Et puis je voudrais revenir, si vous le permettez, nous en parlions il y a un instant avec Patricia Martin, les plantes sont-elles racistes? Eh bien, il y a un terme qui est merveilleux et qui me revient à l'instant. Dans la nature, quand des plantes ne peuvent pas se toucher, qu'elles préfère rester à distance. On ne parle pas de racisme, mais de timidité botanique.
Les conseils d'Alain Baraton, vos réponses Alain aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. Yves nous parle de son pin parasol. Magnifique, dit-il, il a 40 ans ce pin parasol. 4 mètres de circonférence, planté à 5 ou 6 mètres de la route et de la maison. Sauf que les racines commencent à soulever le goudron. Et surtout, des fissures inquiétantes apparaissent dans une pièce de la maison. Est-ce que c'est fissures, cette terrasse qui s'abîme, est-ce que c'est dû aux racines de ce magnifique pin parasol?
Il faudrait vérifier, ce n'est pas impossible. Il est toujours bon quand on plante un végétal de se projeter dans le futur. Vous savez, on a 20, 30 ou 40 ans, on achète une maison, on est heureux, on plante des végétaux, on se soucie pas tellement de leur développement. Et puis les années passent, et puis au bout de 40 ans, on constate que l'arbre est devenu un gigantesque monument qui vit à deux pas de chez vous. Et oui, que faire? Le couper, il n'y a rien de plus terrible que de couper ce que l'on a soi-même planté, ça n'a pas de sens. Donc attention, tenez compte d'un arbre en plein développement avant de l'installer. Donc oui, l'arbre peut créer des problèmes, avant de le couper, vérifier si les racines viennent bien du végétal, et peut-être même qu'il y a moyen de couper les racines sans couper l'arbre, à vérifier, là il faut vraiment être sur place.
Mathieu possède des bambous en pot, et malgré ses efforts, les efforts de Mathieu, les feuilles du bambou jaunissent sur la pointe, laissant 50% de la feuille morte. Je l'irrigue pourtant par goutte à goutte pendant 20 minutes, une fois par semaine en hiver, explique Mathieu. Je l'arrose tous les deux jours en été. Quel est le problème?
Alors déjà, le goutte à goutte, 20 minutes par jour, c'est rien du tout, c'est peanuts.
Non, c'est 20 minutes par semaine. Là.
Ouais, ou par semaine, on arrose ou on n'arrose pas. Mais on va faire très simple. L'immense majorité des plantes, lorsqu'elles ont l'extrémité des feuilles qui jaunissent, cela est lié à un problème de sécheresse d'atmosphère. Dans l'immense majorité des cas, il suffit donc de pulvériser le feuillage pour régler les problèmes. Si vous avez des plantes d'appartement, des ficus, des fougères qui ont l'extrémité qui jaunissent, vous pouvez être presque sûr que l'atmosphère est trop sèche. L'atmosphère, cela peut être votre intérieur chez vous, dans votre appartement ou votre maison, ça peut être dans le jardin quand vous êtes en bordure de route, le trafic routier peut assécher l'atmosphère. n'hésitez pas à pulvériser les plantes, à les bassiner, à les arroser tout simplement.
Odile a acheté du savon noir avec huile de ricin et paraffine pour son carrelage et elle vous demande, Alain Baraton, est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser pour le traitement de mon citronnier ?
Moi je pense avec presque certitude que si ce produit était utilisable dans le jardin, ce serait marqué sur l'emballage. Je crois que quand on achète un produit pour la maison, il y a peut-être dans ce produit des substances qui ne sont pas fortement conseillées pour le végétal. Donc non, on ne mélange pas. Il existe des produits pour le jardin, il existe des produits pour la maison. Attention à ne pas commettre d'impair.
Catherine voudrait savoir si la présence d'énormes terriers de blaireaux au pied d'un vieux séquoia peut abîmer les racines et endommager l'arbre.
Je suis pas sûr, je ne suis pas spécialiste des végétaux, mais je crois que le blaireau investit des terriers préalablement construits ou creusés par d'autres. Ce que je sais, c'est que c'est un animal que je trouve fascinant. Il est d'ailleurs chassé aujourd'hui dans des conditions scandaleuses et inacceptables. Dément d'ailleurs qu'en France, on continue de tolérer des chasses aussi barbares. Donc, il peut y avoir des soucis, effectivement, avec ce blaireau. Peut-être que le terrier pose des problèmes. Il y a une évidence, c'est que le mal est fait en admettant qu'il y a eu mal. On peut éventuellement déranger le blaireau pour qu'il aille ailleurs. On peut peut-être s'amuser à tenter de reboucher ce qui a été fait. Mais je ne crois pas que le blaireau puisse détruire, comment dire, autant les trous peuvent... Où le comportement d'un blaireau dans un jardin peut parfois et rarement être problématique, autant là je doute qu'il y ait vraiment problème.
Rapidement, Estelle a fait des boutures de caprier à l'automne qui commencent à se développer. Quelles seront les prochaines étapes pour espérer les installer dans mon jardin ?
Choisir un sol qui est de préférence calcaire, sablonneux ou sec, voire même pierreux. Se rappeler également que la terre devra être obligatoirement drainée en plein soleil et tout fonctionnera.
Un dernier conseil pour le week-end, Alain Baraton.
Oh oui, c'est tout simple, c'est que la ville de Lyon met à l'honneur un Lyonnais oublié et pourtant Dieu sait ce qu'il a fait pour la botanique. Il s'appelle Pierre Poivre. Eh bien, le parc botanique lui consacre une exposition jusqu'au 7 juillet.
C'est donc à Lyon.
À Lyon, au jardin botanique.
Jardin.
Et c'est Pierre Poivre.
Merci, Alain Baraton, vos bons conseils pour la botanique. Et on se reverra samedi prochain.
À samedi, au revoir.
Il est 7h52.